Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission aujourd'hui, honneur aux femmes avec notre motarde en or, Patricia, bonjour.
Bonjour à tous et à toutes.
Tu vas bien ?
Oui, très bien. J'espère que c'est la même chose pour tout le monde.
Bah, j'espère aussi, voilà. Le mois prochain, les femmes motardes affirmeront leur solidarité aux femmes de par le monde. Ça, c'est le sujet d'une partie de cette émission.
Voilà, disons qu'on ne pouvait pas ne pas insister sur l'importance de l'événement, comme ça va se passer début mars. Ça ne pouvait qu'être présent à l'antenne aujourd'hui. Et c'est une date désormais incontournable, hein, ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Mais ce sera le dimanche 9 que dans une grande partie de l'Hexagone, hein, et en Outre-mer aussi, tout en moto se mobilisera pour en faire une grande manifestation. Donc on va faire un retour sur cette association qui dure et connaît un succès constant.
Très bien. Voilà, autre femme, c'est Mélusine Malander qui va sortir son dernier livre le 12 mars, qui s'appelle La route du tigre.
Oui, donc c'était vraiment l'occasion, hein, l'annonce de la parution de ce dernier ouvrage, c'était vraiment l'occasion de vous faire connaître, pour ceux qui ne connaîtraient pas Mélusine, une personne qui a un parcours vraiment très très impressionnant. C'est une voyageuse, une aventurière sur les routes en solitaire, et ça depuis plus de 15 ans.
Très bien, voilà. Alors après, je te laisse parler de la mayonnaise. Alors là, la mayonnaise, c'est spécial, ça.
Oui,
je répète, la mayonnaise.
Mayonnaise, hein. Voilà. Si vous tapez sur Internet...
Si vous tapez sur Internet, vous allez trouver mayonnaise.
Mayonnaise. Ouais. Et on a eu un coup de cœur, en fait, pour une ville, Moyon Village, qui depuis, donc là ça va être la quatrième édition, donc depuis quelques années, donc organise un événement festif pour le plaisir de tous. Et on a trouvé que c'était une mobilisation telle, et c'était tellement sympa qu'on a voulu vous en parler, parce qu'en plus ça peut être une belle destination de balade.
Alors c'est dans la Manche et c'est près de Saint-Lô. Voilà. Bon, c'est pas très loin d'ici, de Lille. Hein,
c'est pas finalement. C'est pas très loin, et puis il y a quand même de très belles routes par là.
Voilà, très bien, voilà. Donc ensuite, vers 12h45, on vous propose un interview exclusif de Milko Potisek et David Hoquier, le président du motoclub ETO et directeur sportif de l'épreuve du Touquet. Un interview qui a été réalisé jeudi soir chez Dodon Kariamo à Seclin. Ensuite, et pour terminer cette émission, en troisième partie, voilà le championnat du monde, plein feu sur le championnat du monde de vitesse qui commence la semaine prochaine sur le circuit de Chang International, circuit en Thaïlande. Voilà, cette émission vous est proposée par l'association des motards de Kikinkout et Tupal. À la technique et la programmation musicale, on salue notre pilote d'émission, Laurent. Et on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. A tout de suite.
Eyeshadow on, it's gonna look real nice.
Les motards, c'est sur Campus, tous les dimanches à partir de 11h sur le 106,6 ou www.campuslille.com. Le 8 mars, une date désormais incontournable, Patricia.
Oui, le
pourquoi ? Pourquoi incontournable le 8 mars ?
Je pense que c'est vrai que la lutte très importante des femmes pour l'égalité des droits a pris ses origines tout début du XXe siècle. Donc, il y a eu énormément d'acquis. Mais le fait qu'elle soit aussi internationale, il y a une solidarité avec toutes les femmes de par le monde et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et donc, cette journée, c'est vrai qu'elle est importante. Elle a été officialisée par l'ONU. Et donc, c'est le 8 mars qu'on se rappelle tout ce qui a pu être fait pour arriver, par exemple, dans notre pays, à une quasi-égalité des droits. On peut dire que sur un plan de... on est quand même... très très bien placé hein, pour une égalité, du moins une égalité.
Il y a encore des choses à faire, je suppose.
Je pense qu'on a énormément de moyens en tant que femme. Après, il faut aussi pouvoir se déterminer à prendre les bons carrefours hein, sur sa route et puis faire les bons choix. Mais c'est pas toujours évident, bien sûr. Et donc cette journée depuis 1977 sert aussi vraiment à sensibiliser. À la nécessité de toujours se réjouir qu'elle existe et qu'elle nous pousse à justement nous poser des questions sur juste son bien fondé, c'est-à-dire est-ce qu'il faut continuer à la célébrer. Moi je pense que oui, parce que je pense qu'il y a des femmes dans pas mal de pays qui ont besoin de savoir que voilà, il y a une possibilité de respect à pouvoir dont on peut bénéficier hein, sur un plan de justice, et c'est vraiment très très important. Donc cette mobilisation, bah oui, elle est dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Donc si on veut parler des motardes, en France, on a une association qui fête ses 15 ans cette année et qui tient la route, parce qu'on aurait pu avoir un ou deux défilés, quelques années comme ça de journées festives. Et non, je pense que cette association a des valeurs solides et donc est un concept qui est partagé, parce que au départ, il y a eu, si on revient sur l'historique, ça démarrait de manière tout à fait spontanée d'une conversation entre deux copines, Annecy Denier et Annie Yahi. On a eu plus justement la joie et puis le plaisir de partager avec Annie qui communiquait beaucoup. Et donc, et Anne qui se déplaçait aussi énormément, elle est venue dans le Nord, hein. Donc sur l'île. Et donc c'est à partir de l'idée de copines qui ont idée qui s'est concrétisée très vite, hein. Elles n'avaient aucune expérience au niveau de l'organisation de ce qu'elles proposaient, mais donc de faire un défilé, et ça s'est construit très vite avec en 2010 un beau défilé dans Paris, hein, à partir de Vincennes. Et donc, et ensuite, eh bien, elles ont été rejointes. C'était Marseille, c'était Genève. Et donc, elles ont actuellement 11 antennes régionales. Et c'est bien structuré. Donc, chacune reprend les valeurs, bien sûr, de l'association, adhère à une charte, on va dire, et va pouvoir agir dans sa région. Et donc cette année, il y a une très belle affiche. Bien sûr qu'ils ont des partenaires et des partenaires qui proposent aussi des actions comme la Massif qui souhaitant soutenir l'action de l'association proposer une application Liberty Rider pour chaque kilomètre parcouru, la Massif s'engage à verser un don à l'association. Parce que effectivement, il y a bien sûr le fait de rouler en moto, d'avoir ce sont des motardes, mais elles sont très très engagées au niveau social, et donc elles sont dès le départ, ça a été bien sûr avec Femmes Solidaires, mais effectivement, il y a quelque chose de très très fort qui se fait et qui est très visible. Cette année, ça sera le 9 mars, mais toute l'année, il y a aussi des choses qui se font. Mmh. Voilà. Aussi avec, par rapport au cancer du sein, la maladie, etc. Donc, c'est vrai qu'elles sont vraiment très actives. Et nous, antenne de Lille, pour deux petites années, si je me souviens bien, nous avons conservé toujours une bonne relation. Donc, en l'occurrence, à l'époque, c'était avec Anne qui est intervenue à l'antenne. C'est vrai que même si le défilé dont on parlait, on avait donc plus une représentation régionale avec toutes les ch'tis à moto. Hein, mais on a toujours été à se réjouir de l'action de Tout en Moto. Et donc en 2013, c'est Fanette,
notre motarde australienne, franco-australienne,
voilà, qui avait fait un beau discours à Lille et donc qui est cité si vous allez sur le site de Tout en Moto. Et donc là, toutes les ch'tis à moto, on peut pas en parler cette année parce que justement ça a été une belle aventure. Il y a eu de belles choses qui ont été réalisées aussi. Et puis beaucoup d'associations, à un moment donné, les personnes sont prises aussi par leurs contraintes personnelles, c'est la fin d'une époque. Donc le message, c'est que si vous avez envie, parce que sur dans tous les Hauts-de-France, il n'y a pas de ville qui soit représentée. Si vous avez envie de rejoindre Tout en Moto, sachez que c'est très facile dans la mesure au moins du contact. Ensuite, bien sûr que c'est assumer une responsabilité et une charge de travail tout au long de l'année, mais vous pourrez bénéficier de l'accompagnement de l'association qui vous aidera à pouvoir justement prendre la route en marche avec toutes ces motardes qui sont engagées. Une petite chose aussi, moi, au départ de l'association, j'avais lu certains commentaires et puis effectivement, j'étais pas loin de penser la même chose. Anne et Annie roulaient en Harley, ça faisait un peu, pub de...
Une marque américaine,
d'une firme en tous les cas. Et elles étaient très soutenues jusqu'à ce qu'elles se dégagent ça. Elles fassent une affiche avec une Ducati. Il y avait une liberté de choix pour les motos. Ils disaient que ce n'étaient pas les ambassadrices de Harley. Et petit détail, Harley a développé aussi quelque chose au niveau des HOG, comme quoi les femmes peuvent compter et ne sont pas seulement, des bonnes consommatrices à venir. Et je pense qu'il y a à faire avec le système et que pour les femmes, voilà, c'est tout ouvert. Et donc, c'est une belle journée qui s'annonce. Je pense que nous, on aura une pensée très solidaire avec Tout en Moto.
Et ce sera le dimanche 9 mars. Hein. Si la journée de la femme, c'est le 8.
Voilà.
Là, Tout en Moto fête le droit des femmes, donc le 9 mars.
Oui. Et vous pourrez voir comme l'équipe s'est constituée aussi. Il y a Sandrine Dufis qui s'occupe de la communication. Et tu te souviens de ce qu'a fait Sandrine Dufis ?
Oui.
Oui ?
Oui. Oui, bah, que c'est vrai.
Oui, parce que c'est toi qui vas parler de la piste tout à l'heure. Oui. C'est quand même la première femme qui participait à une course sur le circuit de Daytona.
Ah oui, voilà, c'est ça, oui. C'est ça.
Donc du beau monde.
Voilà, très bien. Voilà, c'est très bien pour cette première séquence. Donc on rappelle, hein, le dimanche 9 mars. Alors ici, dans les Hauts-de-France, bah, effectivement, tu l'as dit, hein, tu l'as précisé, il n'y a pas de.
Cette année,
non. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de rendez-vous prévu, hein, pour les droits des femmes.
Organisé,
hein, voilà. On peut faire ça. C'est
oui, ou à rejoindre Tout en Moto sur Paris.
Voilà, ou sur Paris, voilà. Ouais. Très bien, merci Patricia. On passe à un morceau de musique et ensuite on va retrouver après Mélusine Ballander pour son nouveau bouquin La Route du Tigre. A tout de suite.
Save my soul, set me
Patricia, au téléphone, nous avons une femme motarde humaniste, c'est Mélusine Malander.
Une femme motarde que j'ai un grand, grand plaisir à accueillir à l'antenne. Merci Mélusine de nous faire le cadeau de cette interview. Je suis très, très admirative de ton parcours. Et est-ce que tu peux nous le résumer, ce parcours que tu as depuis une quinzaine d'années maintenant? Est-ce que tu peux nous le résumer pour que nos auditeurs puissent te situer?
C'est hyper difficile. Bonjour déjà.
Bonjour.
C'est vraiment une question difficile. Ça commence. Ben, moi, j'ai presque toujours roulé à moto. Mes parents sont motards et j'ai toujours voulu voyager. Et à un moment donné, ma moto commençait un peu à battre de l'aile et j'ai décidé de partir le plus loin possible avec elle. Et avec ma 125, j'ai quitté Paris un matin de juin pour aller jusqu'à Vladivostok. Et je suis arrivée 4 mois plus tard, en passant par l'Ouzbékistan, la Mongolie, le Kazakhstan. Et après, ça ne s'est plus jamais arrêté. La moto, elle, s'est arrêtée à Vladivostok. Mais moi, l'année suivante, je suis repartie à moto et j'ai décidé de voyager. Et j'ai eu un coup de foudre en Iran où j'ai pris une vraie. Au départ, je suis partie pour ma propre liberté. Et après, je me suis rendu compte que la notion de liberté était variable et qu'on pouvait penser que dans des pays comme l'Iran, il n'y en avait pas du tout. Pas complètement faux, mais ça ne voulait pas dire que les gens n'avaient pas un avis dessus, et en particulier les femmes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'interroger, questionner et rapporter au moyen de ma caméra des témoignages, et en essayant d'aller dans les pays qu'on connaissait le mieux, le moins bien, comme le Bangladesh, le Rwanda, la Colombie. Et c'est comme ça que je suis partie.
Donc des kilomètres et des kilomètres qui s'engrangent au compteur.
C'est ça.
Et tout ça en moto, Mélusine.
Ouais. Donc moi, depuis que j'ai entendu parler de tes aventures sur la Varadero, c'est vrai que j'ai toujours été très attentive à ton parcours, parce que j'ai trouvé que la démarche, ça a démarré avec Les Voix de la Liberté, comme tu disais, ce livre que tu as écrit 10 ans plus tard, qui est paru 10 ans plus tard et que l'on peut se procurer actuellement en poche dans la collection Pocket. Donc Les Voix de la Liberté, où c'était ta propre liberté, et il y a aussi une jolie BD, j'ai beaucoup aimé, et je trouve que à offrir, elle est super, c'est chez Nathan, c'est Back to Japan, où c'est je dirais Les Voies de la Liberté, mais résumé dans un scénario de BD. Et là, maintenant, va sortir ton dernier livre, où justement il y a eu cette démarche d'approche, je dirais, de recherche, d'apprentissage par rapport à cette notion de liberté. On parlait juste avant de justement la journée internationale des droits des femmes, et on a, je dirais, la représentation que la liberté est un droit, mais la liberté Est-ce que tu arrives à l'approcher un peu, cette idée de liberté en traversant les différents pays que tu as parcourus?
C'est une question très compliquée, très délicate, parce que c'est une question de... Alors, il y a d'abord un droit qui va avec la justice et qui est très importante et qui doit être... il faut un cadre légal. Chez nous, par exemple, quand on est une femme, on a une identité, on existe en tant qu'être humain. Dans certains pays, ce n'est pas le cas, par exemple. Il y a encore plein de
paramètres, bien sûr.
En France, il y a ce cadre en fait d'interdiction ou de possibilité qui peut exister dans chaque endroit. Et puis après, il y a la question du ressenti, de l'émotion et de ce que on peut aussi se permettre de faire. Là, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, parce que je suis sûre qu'on a autour de nous des gens qui vont dire « moi, j'ose pas » ou « je peux pas », mais en fait, tout ça est quelque chose de très personnel. C'est possible, mais on a des barrières personnelles qui peuvent nous empêcher. Or, moi, j'ai été assez... c'est aussi ça, mes leçons en voyageant, c'est d'aller dans des pays où potentiellement on pourrait se dire c'est très compliqué en fait d'être libre dans ces endroits-là, et pourtant certaines personnes osent, font, créent, prennent une moto, personne ne le fait. Enfin, une fois, j'ai rencontré Sylvia au Bangladesh. Elles sont peut-être une cinquantaine à rouler en deux roues au Bangladesh, mm-hmm. dans un pays de millions de gens, mais parce que c'est pas du tout dans la culture, parce qu'on n'y pense pas, parce que c'est une femme ne sort pas dans la rue. Et elle a pris son seul et elle s'est pris cette liberté-là. Et après, elle a voulu l'offrir aux autres, donc elle a fait pour de deux roues. Et puis, elle a créé sa petite communauté pour essayer de venir et d'avancer.
Alors Mélusine, on a un petit problème de communication. C'est un peu haché, la conversation. Je m'excuse, mais est-ce que tu peux pas te déplacer peut-être
Au
niveau de la réception, oui.
Oui.
Je me déplace.
Là, c'est bon. C'était très...
Oui, tu ne bouges pas.
Tu ne bouges plus.
Je ne sais pas où t'es.
Mais pour en revenir à ton dernier voyage, donc c'est l'objet du livre qui va sortir le 12 mars.
Oui, alors La Voix du Tigre, c'est un livre qui retrace l'expédition que j'ai faite où je suis partie de Jakarta jusqu'à Paris. Pendant une dizaine de mois et toutes les rencontres que j'ai pu faire dans certains des pays que j'avais choisi de m'arrêter, comme l'Indonésie, le Népal, le Bangladesh, le Pakistan.
Et donc, pourquoi la voix du tigre, ça en référence à quelque chose de précis?
Et la voix du tigre, c'était le nom de l'expédition, parce que ma moto, c'était une Tiger.
Ah oui, d'accord. Ah, oui.
Des pays où il y a eu à un moment donné des tigres et puis qu'il y avait ce côté sauvage, ce côté de laisser aussi cette partie sauvage qui m'interpellait. Mais voilà, c'est un mélange de tout ça. Mais je ne rencontre pas de tigre en définitive.
C'est vrai que tu roules sur une Tiger 800. Comment as-tu été accueilli juste parce que par rapport à ton premier voyage, c'était pas les mêmes pays, mais. 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, on va dire, je ne sais pas quand ça s'est situé, la traversée de tous ces pays, mais est-ce que tu as été accueilli de manière très positive dans tous les pays que tu as traversés?
Je dirais que globalement, c'est rare en fait d'être mal accueilli quand même. et j'ajouterais, la moto, c'est vraiment une manière de voyager qui est... c'est simple en fait. Les personnes qui vous voient arriver à moto savent que...
Oui, ça paraît assez général que l'on nous dise que finalement la moto permet tout de suite le contact, le dialogue avec la population locale, quelle qu'elle soit, quoi.
C'est un passeport de rencontre, ça permet vraiment un dialogue très simple, très facilement. Vous arrivez dans des endroits où jamais personne.
Oui.
D'un coup, vous déboulez avec votre bécane, ça a une sacrée surprise. Et les choses sont simples. On va où, d'où on vient, t'as besoin de quoi ou pas. Et puis après, la surprise, parfois bah, de voir que c'est une femme qui conduit, de dire ah oui, ça.
C'est la deuxième surprise.
Et où sont les autres hein, que bah, tu t'es perdu.
Voilà. Non, mais. En fait. Mais pour oui c'est ça. Mais pour parce que pour c'est pas de la publicité pour une marque, mais je pense par exemple à ce que tu évoquais dans les voies de la liberté avec cette Varadero qui avait déjà beaucoup de kilomètres au compteur. La Tiger a été une bonne compagne de voyage.
Oui, une excellente compagne, mais c'est pas le même voyage évidemment parce que c'est pas la même moto.
Bien sûr.
Mais c'était... en fait, elle a quelque chose de très puissant. Elle est très haute. Et donc, tout de suite, ça crée quelque chose d'important. Et dans un sens, c'est aussi quelque chose qui peut être assez protecteur dans certains endroits, de dire, bah, attention, j'ai quand même une très grosse bécane. Il ne faut pas me faire chier.
D'accord. Écoute, Mélusine... Je trouve qu'il y a tellement de choses à dire parce qu'il y a aussi les films, etc. Donc, je savais que ça, le temps qu'on allait avoir pour l'interview allait être assez limité. Et je t'avais, dès mon premier contact, proposé de nous retrouver, si tu le veux bien, pour le plus grand plaisir de nos auditeurs, pour avoir plus de temps pour se poser et pouvoir davantage avoir de détails sur tout ce que tu fais. Est-ce que tu es d'accord toujours ? Après cette interview.
Oui, avec plaisir, merci.
Le plaisir sera vraiment aussi complet pour nous. Je te remercie beaucoup et je te dis donc à très bientôt.
À très bientôt.
À très merci. Bientôt. Donc on n'oublie pas, hein, La Route du Tigre, ça sort le 12 mars en librairie.
A year you can-
Bon, Patricia, dans le magazine de la moto de Campus Lille, on part à Moyon Village, c'est dans la Manche, près de Saint-Lô.
Tout à fait, et nous retrouvons Patrice. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Vous êtes maire déléguée et présidente du comité des fêtes de Moyon.
C'est ça même.
Voilà, et donc le 20 avril prochain, à Moyon, il va y avoir un événement qui a énormément de succès, puisque c'est porté par ce succès aussi qui a une quatrième édition cette année.
Oui, c'est ça, oui. On a démarré en 2022. Donc c'est grâce à un monsieur qui fait pas mal de rando en dehors du département. Et puis un jour, notre maire l'a rencontré. Et puis il lui a dit, je voudrais bien organiser ça dans la Manche, mais je trouve personne pour prendre le relais. Donc le maire m'en a parlé, et puis voilà, j'ai accepté de m'occuper de ça.
Et c'est pour le plus grand bonheur de tout le monde, parce que c'est un événement qui... alors si vous pouvez nous le décrire, c'est un événement quand même spécial qui se déroule là depuis 2022. C'est démonstration d'anciennes.
Oui, c'est ça, c'est une démonstration d'anciennes motos. Hein.
Oui.
C'est des motos des années 80. Donc on a un petit circuit qui fait entre 4 et 5 km. Donc on fait partir les motards un par un sur le circuit toutes les 30 secondes. Et voilà, ils font ça 6 fois dans la journée.
Hein. Et ils se prennent au jeu, vous me disiez. Vous disiez que...
Ils se font un peu plaisir dans les virages et tout, voilà. Bon, après, c'est bien sécurisé. On a 40 signaleurs sur le circuit. Donc, dès qu'il y a un incident, le signaleur lève le drapeau. Ça veut dire qu'il faut arrêter la course.
C'est limité aux années 80, Max, l'âge des motos.
Oui, voilà. Oui. C'est des vieilles motos, hein. c'est des motos qui n'ont plus le droit d'aller sur la route.
Années 80, c'est Utameur, hein. c'est plus tout à fait vraiment des vieilles motos. Hein.
Oui, bon, ça fait presque 40 ans quand même.
Oui, oui, mais, d'accord,
ouais.
Oui.
Mais disons que vous faites le plein en tous les cas pour les inscriptions.
Ah oui, pas de problème. Hein. On a souvent une liste d'attente d'ailleurs. Hein. S'il y a un désistement, on prend dans l'ordre.
Oui, parce qu'on était très contents d'en parler, parce que le bouche à oreille a été très efficace. Et c'est un événement qui commence à être bien repéré. Et pour les amateurs qui ont envie justement d'être dans les conditions, hein, des courses qu'on faisait avant, des courses dans les villes, c'était très, 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 très courant. Il y a tout ce plaisir de pouvoir s'essayer, dans les courbes, etc., dans les virages, à pouvoir rouler. C'est donner des bonnes conditions, dans la mesure où vous avez ce succès-là, c'est que ça... Ils doivent être tout contents.
Oui, le circuit a bien plu dès la première année. Donc on a un circuit qui est un petit peu vallonné avec 2-3 virages et bon, ça a bien plu aux participants. Donc c'est pour ça que le succès est là.
Alors ça s'appelle la Moyonnaise, hein ? La Moyonnaise.
Oui, on n'a pas cherché loin.
Hein. À Moyon Village, la manifestation s'appelle la Moyonnaise, la manifestation des motards. Alors, c'est parce que c'est sur Internet, on fait Moyonnaise, on tombe sur la fabrication, sur la truc de la mayonnaise.
Il faut pas la même région.
J'ai pas trouvé.
C'est Moyonnaise.
C'est Moyonnaise, voilà.
Oui, c'est ça.
Mais moi, je suis très contente que vous puissiez parler de Moyon Village, on doit dire. Hein.
Oui.
Parce que je trouve que vous êtes une équipe hyper dynamique. Nous, on est intéressé par cette journée concernant la moto, mais vous êtes là aussi pour assurer les meilleures conditions, par exemple pour un trail à 1400 participants pour une première édition.
Alors ça, c'est une course à pied, ça,
voilà.
Trail.
Ouais. Oui, course à pied qui a eu lieu là il y a une quinzaine de jours. Là. Ouais, on avait 1200 coureurs et 250 marcheurs.
Oh. Et donc, vous êtes une petite commune en proportion, je dirais.
1500 habitants. c'est trois communes regroupées, mais ça a toujours été dynamique, Moyon, depuis des décennies. Et voilà, il y a beaucoup d'associations. Il y a un club de foot qui marche super bien avec 300 licenciés. club de vélo qui évolue en National 2. Donc, pareil, qui a formé même deux coureurs professionnels là, dernièrement. Un qui est arrivé dans l'équipe Arkea et l'autre d'une équipe un peu moins connue, mais voilà, qui marche très bien. Et puis on a deux Hara, donc un qui fait, bah, qui apprend aux jeunes à faire du cheval, qui est spécialisé pour ça.
Hein. Et beaucoup de, vous disiez, beaucoup de choses à voir alentour. Donc que de quoi motiver les gens à aller se balader vers le 20 avril
à la mayonnaise
et
la
mayonnaise. Pouvoir assister voilà. À la mayonnaise.
Combien de participants, Patrice?
Là, on limite à 50 motos.
50 motos,
ouais. Oui. Ouais, c'est ouais. Déjà pas mal.
Il
hein.
y a un tarif d'inscription.
Le tarif, je ne l'ai pas en tête parce que c'est en fait on travaille avec une autre association, une association de motards. C'est eux oui. qui gèrent la partie logistique.
Mais ils se mettent pas trop en avant au niveau communication. Donc c'est pour ça qu'on s'était adressé à vous. Il faudrait leur dire.
Ouais. Oui.
Et on aura le plaisir de se retrouver l'année prochaine. En tous les cas, voilà. Un grand merci pour votre participation, Patrice. Et puis, très content de faire connaître Moyon Village et son dynamisme.
Est-ce qu'il y a moyen sur les réseaux sociaux de voir un peu l'information
oui,
complémentaire à ce qu'on a dit aujourd'hui là.
Vous pouvez aller sur Commune de Moyon Village.
La Commune de Moyon Village.
Il y aura un résumé de la manifestation.
Bon, très bien, merci Patrice.
Voilà.
Un grand merci.
Merci à vous. Merci à vous.
À une prochaine.
Et un bon dimanche.
Merci.
Au revoir.
Bon week-end.
Au revoir. Yeah. Bon, Patricia, est-ce que tu connais le pilote qui a terminé deuxième au Touquet Enduropal cette année, là, il y a 15 jours?
Je dois répondre.
Tu connais? Non, tu connais pas. Tu sais pas. Non, tu m'as posé une question l'autre tout à l'heure. Là, j'ai eu un doute là. Oui, et ben alors, je te repose une autre question.
Donc je dis, j'affirme, Milko Petit-Sec.
Ah ben voilà, gagné. Alors je sais pas ce qu'on va, tu vas gagner un, je sais pas quoi, mais on verra bien.
Un petit pain au chocolat.
Un petit pain au chocolat, voilà. Voilà, donc on vous propose effectivement une interview exclusive hein, de Milko Petit-Sec qu'on a rencontré, jeudi soir et l'interview qui a été réalisée chez De Donker Yamaha à Seclin. Alors tout de suite, c'est Milko. Il y a un scoop aussi dans cette interview. Il dure 3 minutes. Et il faut écouter jusqu'à la fin de l'interview hein, pour avoir le scoop. À tout de suite.
Bonsoir, Milko. Bon, c'est la remise des prix chez De Donker, donc Yamaha. Et là, je viens d'apprendre que l'année prochaine, ce sera ton dernier Touquet.
Ouais. C'est fin de contrat en 2026 avec Yamaha. Et puis, c'est surtout, c'était un de mes souhaits. Je savais que j'allais plus tenir encore 20 ans. J'ai 35 ans, j'ai beaucoup donné. Donc, voilà. Faut respecter un peu son corps. Je lui ai beaucoup demandé. Il va falloir l'écouter un petit peu maintenant. Et une belle saison dans les pattes encore, et ça sera bien, ouais.
Alors, tu arrêtes à cause du contrat qui est terminé avec Yamaha ou c'est vraiment le physique qui apparemment ne suit plus?
C'est plus contrat, ça je sais que j'aurais la possibilité de rouler encore si je le voulais, mais c'est vraiment plus sur le plan physique et un peu mental aussi où je me suis beaucoup donné, j'ai beaucoup encaissé. À un moment faut savoir écouter un peu son corps. J'ai une femme, 2 enfants, enfin faut penser à tout le monde.
Tu veux passer du temps avec eux?
Voilà. Puis j'ai surtout écouté mon corps. Le matin, si je fais un scanner corporel, je vois que tout va pas très bien, donc faut faire attention à la machine.
Bon, qu'est-ce que tu penses de cette 50e édition de l'Enduropal?
C'était vraiment bien. C'était une belle course. On a eu du beau temps.
Tom Kellett, impossible à pouvoir accrocher.
Ouais, cette année je le savais. Hein, je me suis entraîné. J'ai repris la moto le 3 décembre, donc j'ai eu 2 mois de préparation moto. Physiquement, j'étais bien, mais rien remplace la moto. Je savais que dans les dépassements des retardataires, c'est surtout la vision en fait où je devais bosser, où je dois rebosser pour reprendre en fait, rouler vite entre les retardataires. Et ça, c'est pas si simple. Ça, c'est vraiment un travail un peu du cerveau et de l'œil. Et ça se travaille que en course, pas à l'entraînement. Ouais. Donc j'ai besoin de refaire des courses, de reprendre le rythme. Et l'année prochaine, ça sera un autre Milko sur la plage du Touquet.
Le fait de ta blessure là, cette année, peut-être que ça manque aussi d'entraînement. Peut-être d'endurance.
Ouais, clairement, un an sans course, ça se rattrape pas. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment pas voulu rattraper le temps. Au Touquet, j'ai fait avec les armes que j'avais. J'ai pas roulé au-dessus de mes pompes. C'est pour ça que même quand Todd partait un petit peu, j'ai pas essayé d'attaquer plus. Je suis resté dans ce que je connaissais. L'année prochaine, je serai en possession de faire mieux. Après, le résultat sera peut-être pas mieux, mais de me donner plus, là, je pouvais pas plus cette année. Ouais. Je voulais pas plus. Je voulais vraiment rester dans de la sécurité. C'est ce qui m'a un peu prêché ces derniers mois. Donc, c'était vraiment sécurité avant tout.
Donc, tu vas refaire le championnat, je suppose. Tu vas recommencer en début.
Championnat en de début France octobre. Complet, ouais. Plus le championnat du monde. Donc, là, première épreuve au Touquet. Donc, je suis deuxième du championnat. Là, on part en Argentine début août pour un mois pour faire la deuxième épreuve. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être champion du monde au Touquet 2026.
Tu veux vraiment terminer en apothéose de ta carrière, en fait, l'année prochaine.
Je pense que c'est le but de tout sportif, de finir sur une note, une note comme
bien
ça.
Sûr.
Si je peux finir là-dessus, ça me va très bien.
Très bien. Et après, j'ai appris aussi que tu avais ouvert un bar, si j'ai bien compris.
Dans un mois. C'est dans les bails au Lyon des Flandres, ouverture à Cassel sous peu.
Donc tu nous as dit qu'il y avait des frites et de la bière.
Des planches apéro et de la bière.
Ah, des planches apéro. Voilà.
Ah non, ça c'est quelque chose qui me plaît. Donc ouais, ça va être bien cool ça.
Donc tu nous as dit avec un décor, avec plein de motos, des motos de cross bien sûr, de tout terrain.
Ouais, mes 3 motos, victorieuse du Touquet, un peu de déco sympa avec les beaux trophées, et il y a moyen de faire un truc assez sympa, ouais.
Voilà, donc tu vas devenir patron de bar, enfin gérant de bar.
Ouais, c'est ça, mon rêve.
Eh bien écoute, c'est très bien, voilà, et je te remercie pour cette interview, et puis bonne chance encore pour cette toute dernière saison.
Content d'avoir été sur Kick un coup, t'es tout pâle, comme on dit. Hein.
Merci Nico.
Et moi, merci.
Bon, voilà, vous avez compris, si le dimanche vous faites une petite balade, quand il devait commencer à faire beau, là, il faudra aller à Cassel, au bar, au nouveau bar, le Lion des Flandres. Donc, c'est le patron, ce sera Milko Petit Sec. Super quand même, avec le décor Balou.
Cassel, sur lequel il y avait un beau circuit de cross dans le
temps. Il y avait un beau circuit de cross. Ben, je croyais encore un circuit de cross. Hein. Voilà, très bien. Voilà, et puis, puisqu'il était là, on a profité aussi de faire une interview avec David Wauquiez. C'est le président du motoclub ETO et directeur sportif de l'épreuve du Touquet. Voilà, tout de suite, c'est David Wauquiez au micro de Kikinkout et Toupal sur Campus Lille. Je suis avec David Wauquiez. David, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors bonsoir, on va dire bonsoir parce qu'il est plus passé 21h. Et je viens d'avoir le président d'Arleux, David, et il m'a dit que tu avais commencé le motocross à Arleux. Est-ce
oui,
vrai?
C'est bien vrai. David a raison. J'ai démarré en août 83 et mon premier club et mon premier circuit de motocross était Arleux.
Bien. Oui. Ah, il m'a pas menti. Hein.
Il m'a pas menti. Voilà. J'ai passé tout un 83 et l'hiver 83, début 84, à rouler quasiment les mercredis et les week-ends là-bas à Arleux.
Ah ouais, d'accord. Et maintenant, c'est toi qui organise, c'est toi qui prépare la piste. Donc de l'Enduropale hein, au Touquet.
Oui, je suis président, je suis directeur sportif et président du motoclub de là-bas, tout à fait.
D'accord, du motoclub. Hein.
Oui, donc pour organiser une course, il faut automatiquement un motoclub. Donc je suis le président de Théo qui est
D'accord.
Enduropale Touquet organisation.
Alors je voulais savoir, est-ce que c'est facile d'organiser, de créer une piste sur le sable comme ça, éphémère?
Alors créer une piste, voilà, aujourd'hui j'ai l'expérience en tant que pilote, j'ai eu l'expérience maintenant depuis quelques années. Je suis arrivé en 2009 là-bas pour vraiment créer une piste parce qu'il n'y avait pas de piste à l'époque, c'était deux grandes lignes droites qui allaient du Touquet à Merlimont aller-retour. Aujourd'hui, on arrive à créer une piste sympa. C'est pas toujours facile parce qu'on a des pressions au niveau de l'environnement, de faire attention à ce qu'on fait sur la plage. Donc, on a beaucoup de contraintes, mais globalement, je trouve qu'on a fait une belle évolution, une belle piste. Aujourd'hui, les pilotes prennent plaisir, le public aussi. Mais aujourd'hui, organiser, que ce soit nous, le Touquet, ou même un petit club qui organise une épreuve, c'est jamais facile. Dans les jours actuels, c'est pas forcément. Il y a beaucoup de contraintes.
Il faut faire attention à la sécurité, enfin les buts aussi.
En ce qui concerne
les whoops et que les pilotes viennent pas se planter dans les buts.
Oui, non, mais nous, moi, j'essaie de faire un circuit qui ramène du spectacle pour le public, qui ramène du plaisir pour les concurrents. Et après, le troisième point, et surtout le plus important, c'est d'avoir le moins de blessés possible. Là, on a encore, sur la course du samedi, sur trois courses samedi, on a eu que 10 blessés qui sont rentrés chez eux le jour même. Quoi.
Donc, pour créer une piste comme ça, il faut un professionnel, toi.
Ils m'ont fait appel, ils ont fait appel à moi en 2009.
Voilà,
aujourd'hui,
oui.
Ils sont très 2009, contents.
Alors, et maintenant, on est en 2025.
Donc, je vais bientôt avoir fait plus d'années en tant que président. Que pilote.
Ah oui, d'accord. Très bien. Bah, écoute, David, incroyable. Oui, et puis alors, le problème maintenant, c'est que le Touquet, il y a le vintage, il y a les quads, il y a les juniors. Et il faut créer la piste adaptée aussi pour toutes ces catégories.
Bon, la piste aujourd'hui, les vintage, ils n'ont pas trop de soucis, même sur les choses techniques, ils arrivent à passer aussi. Hein. Ils ont aussi beaucoup d'envie. Et même avec des vieilles motos, ils arrivent à faire des très belles choses.
Ouais. Non, mais jusque l'année dernière, ça fait deux ans que j'ai parpé. Et moi, j'ai eu des problèmes de motricité et de plantage de la roue avant hein, dans les sillons.
Ça fait partie de la course, quoi, ça.
Voilà.
C'est enduro, quoi.
Voilà, donc il faudrait que je prenne un petit peu de stage, de technique.
Ah, moi, j'ai une école de pilotage.
Tu as des cours régulièrement à la plage.
L'hiver, on est souvent sur la plage. Ouais.
C'est comment ça se passe le week-end?
Non, ça peut se passer essentiellement le samedi ou la semaine. Ça peut être en cours privé ou en cours.
Alors, il faut venir avec sa moto, son équipement.
Voilà,
ou
venir avec sa moto.
Tu prêtes une moto.
À une plage, au niveau de l'école, sur le cateau, on fournit. Les motos du plus petit au plus grand et l'équipement aussi. Par contre, à Lune Plage, il faut venir avec sa propre machine et son propre équipement.
Ouais. D'accord, parce que le sable et la terre, c'est pas pareil. Hein.
C'est un peu différent, les réglages sont différents.
Un peu différent,
la maîtrise est différente.
Il y a
beaucoup d'ornières dans le sable.
Beaucoup d'ornières. Hein,
c'est mou, tu l'as dit.
Quand il y a beaucoup, c'est mou. Et quand il y a beaucoup de pilotes qui sont passés, c'est
plus,
de pire en pire.
En plus.
Alors les premiers tours, ça va encore, mais alors, voilà.
C'est vraiment
et on peut venir avec une vieille moto, une vintage.
On peut venir,
moderne.
Le vintage a tellement pris d'ampleur, maintenant on fait des stages spécifiques vintage.
Alors justement, on parlait de ça, on a l'impression que le vintage va surpasser la course du dimanche maintenant presque.
Non, je dirais pas ça, mais ça devient quasiment l'équivalence. Parce qu'aujourd'hui, on est limité en nombre de concurrents sur le week-end. Voilà, on voulait augmenter la jauge des motos, la jauge des vintage. Ça n'a pas été accepté par les services de l'État et par l'environnement. Mais c'est devenu une épreuve incontournable. Quoi.
Voilà. Alors, il y a un petit souci au niveau des vintage. Hein. Certains vieux pilotes disent qu'il y a des choses qui sont pas normales de voir ça, les fourches de certaines machines qui, à l'époque, n'avaient pas des fourches de ce qu'on. Des machines qui ont été modifiées. Alors, si la fourche a été modifiée, on pourrait se poser des questions pour le moteur, à l'intérieur du moteur.
Bon, les moteurs, je suis pas trop inquiet. Une 500 CR, moi j'ai gagné à l'époque en 97 sur une 500 CR. C'était les mêmes motos qu'il y a aujourd'hui devant. Aujourd'hui, la 500, pour l'exploiter, il faut quand même rouler. Je pense pas que ça soit surpuissant par rapport à ce qu'on avait à l'époque. Moi, je connais des préparateurs qui m'a préparé ben, préparer la moto 97, il faut les mêmes préparations aujourd'hui pour les vintage. Ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir des pièces pour ces motos-là. Ça, c'est un vrai problème.
Oui, alors ça, oui, ça, c'est
après,
un problème.
Les règles, mais... des fois, c'était autorisé de mettre des fourches. Revenir en arrière aujourd'hui,
on pourrait pas.
Ça serait un peu compliqué.
Et on pourrait pas faire des catégories.
On en a fait deux. À l'époque, on en avait trois catégories. On n'a plus que deux. Je pense que deux, il faut les préserver, ce qu'il y avait, on en a discuté tout à l'heure.
Oui.
Il y a des motos avec des bi-amortisseurs et des cantilovers.
Oui, voilà, c'est garder. Ça, les bi-amortisseurs.
Mais
oui.
On en a de moins en moins. On en a de moins en moins. On avait une dizaine,
c'est dommage
près,
parce
ou une
que
vingtaine
c'est,
cette année au Touquet. Mais...
c'est dommage parce que c'est le vintage. C'est, alors qu'on aimerait bien revoir. Comme là, c'était les 50e enduro et on aurait bien aimé revoir les motos qui ont participé au premier.
On en a vu, on en a vu, mais qui était dans le musée. Qui était dans le musée
éphémère. Dans le musée, oui.
On en a vu sur la piste aussi, mais il y en a de moins en moins. C'est vrai que c'est vraiment des motos, c'est des orfèvres. Aujourd'hui, c'est des gros bijoux. Et il faut bien les protéger. Et aujourd'hui,
tu crois qu'ils viennent pas, ils osent pas, les propriétaires ne viennent pas.
Je pense qu'il y en a qui ont des motos qui n'ont pas envie de rouler. Ils les gardent chez eux parce que c'est une belle machine. Et voilà, aujourd'hui, trouver des pièces, c'est pas facile. Donc, grand coup de chapeau à ceux qui se font quand même avec des vieilles motos.
Bah, c'est moi, j'en ai que je connais quelques-uns qui sont, ils ont participé quand même avec des vieilles motos.
Oui, il y en a. Donc, on essaiera peut-être pour la 50e édition de les mettre un peu en avant.
L'année prochaine, ce sera la 51e.
50e édition,
ouais. Parce qu'il y a eu deux fois, il y a eu deux annulations.
La guerre du Golfe et le Covid.
Et le Covid. Donc, là, c'était 50 ans
de l'événement.
Effectif.
75-2025. Voilà.
Mais en fait, en course, non, il n'y a pas.
C'était la 49e édition et ça sera la 50e.
Voilà, très bien.
Voilà.
Bon, bah écoute, David, je pense qu'on a tout dit. Tu veux rajouter quelque chose ?
Il y en a tellement à dire.
Pour les auditeurs de Kick un coup.
Je vais pas dire revenir encore plus nombreux en endurobal parce qu'on sait plus où mettre les spectateurs.
Est-ce que tu as trouvé que cette année, il y a eu plus de monde que d'habitude pour le 50e ?
On atteint les chiffres de 700 000 spectateurs sur le 700 000 sur le week-end. Ouais. Ouais, c'est énorme. Donc après, date anniversaire, je pense que c'est l'effet un peu aussi. Mais depuis quelques années, on est au-delà des 500 000 spectateurs sur les 3 jours.
Oui, c'est énorme.
Donc c'est vraiment une fête populaire et ça fait plaisir.
Bientôt, ce sera pratiquement une semaine. Ce sera un événement. C'est la Bike Week, en fait.
Il y en a qui râlaient un petit peu pour démarrer le mercredi.
Ça commence le mercredi, maintenant.
Mais moi, j'étais là-bas dès le lundi. Et dès le lundi soir et le mardi, j'ai des véhicules qui arrivaient.
Oui.
Donc ceux qui m'ont dit, c'est trop tôt mercredi, ils arrivaient déjà le mardi. Donc voilà.
Oui, parce que c'est trop tôt le mercredi.
C'est la semaine de l'enduro.
Bon, merci, David.
Merci à toi.
Merci.
Surprising, I built a rock for me and my sleek black cat, man. What was I thinking about when I crashed last night? Oh yeah, turn off the gas, don't forget to switch off the light. That's alright, cause I'm amazing. I'm a lazy son. You
dernière ligne droite de cette émission, on ne pouvait pas faire autrement que d'en parler avec nos motards passionnés, Jean-Pierre et Claude Bonduel. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous propose de parler du championnat du monde des vitesses qui commence la semaine prochaine.
La semaine prochaine,
vendredi, hein, les essais, voilà, et puis après.
En Thaïlande.
En Thaïlande, hein. Alors, c'est un changement, là, hein, parce que d'habitude, ça commence toujours au Qatar.
Au Qatar, oui, tout à fait.
Oui, et puis, il y a un mois de décalage vis-à-vis d'avant. Avant, c'était toujours au Qatar et c'est toujours au mois de mars. Hein.
Bon, alors, on fait un point, 22 courses, hein, 22 rendez-vous, donc ça fait 44, oui, 44 avec la course sprint du samedi. Mmh. Les pilotes se sont plaints l'année dernière, hein, parce que c'était à la fin, effectivement, c'est éprouvant.
Oui, c'est éprouvant. Puis en même temps, le sprint, c'est un autre type de course. Bagnaia, il a laissé son titre.
Oui, je pense aussi.
Oui, effectivement.
Les sprints, bon. S'il a perdu le championnat du monde, c'est parce qu'il n'était pas, il était pas fort au sprint.
Voilà, et donc on peut gagner souvent le sprint. Alors effectivement, c'est une stratégie, on peut gagner le sprint, mais si on perd des points après la course, et si on se blesse au sprint, le lendemain, on n'est pas apte à pouvoir faire la course.
Il a été moins calculateur, en fait, il s'est planté dans les sprints, et puis voilà. Quoi.
Bon, alors, on va parler un petit peu des changements cette année, peut-être des teams. Bagnaia et Marquez, c'est à mon avis, c'est là que ça va jouer.
Oui. Oui, je pense.
Je pense aussi.
C'est là que ça va jouer.
Ça va jouer ou ça va trembler.
J'espère que ça va pas. Ça risque de trembler. À chaque. Parce que c'est toujours embêtant de les voir à un film et qu'on connaît la fin.
Moi, je suis pas aussi, mais enfin, j'ai quand même un petit peu peur de l'attitude de Marquez par rapport à Bagnaia.
Oui, alors, est-ce que
non,
vous pensez.
Je pense pas, personnellement.
Claude, est-ce que vous pensez que. Parce que. Bagnaia, il vient du VR46. Hein. VR46, c'est Rossi.
Oui, oui.
Et vous vous souvenez, il y a 5-6 ans, là, il y a plus que 6 ans, hein, ce que Marquez a fait à Rossi. Hein, et ça l'a empêché d'avoir son 10e titre. Hein, et je pense qu'il est encore un peu dans la gorge.
Qui ne s'en souvient pas,
peut-être. Oui, tout, hein,
mais c'est plus du tout pareil. Hein. Il y avait vraiment une animosité assez bien avec Rossi. On sentait. Je sais pas, une rivalité trop, trop forte. Là, c'est complètement différent. C'est un nouveau. Pour Marquez, c'est un nouveau challenge. Parce que franchement, tout ce qui est arrivé, je pense qu'il y a eu très, très peur de devoir arrêter la compétition. C'est parce qu'il a rebondi dans une équipe qui était très bonne et qui a réussi à le maintenir et à lui redonner espoir. Je pense que c'est ça. Et l'espoir, il a récupéré l'espoir, il a regagné, ce que beaucoup n'attendaient plus. Et franchement.
C'est vrai, Marquez, il a quitté Honda pour aller chez Ducati, oui, avec un salaire moindre, hein, apparemment.
Très nettement moindre. Hein, tout à fait. Oui, par rapport à ce qu'il gagnait, il y en a beaucoup qui n'auraient pas franchi le pas.
Bah oui, et donc c'est quand même un pilote qui veut la gagne.
Il veut, c'est la gagne qui.
Ouais. Hein, et surtout qu'il y avait encore 2 ans de contrat chez Honda. Deux ans encore.
Même si au niveau personnalité, on ne l'aime pas trop, peut-être.
Oui, non, mais de toute façon, il faut reconnaître qu'au niveau sportif, c'est un gars qui veut gagner. C'est la gagne qui compte.
Voilà.
C'est un battant et même sa manière de rebondir, il a préféré repartir dans une écurie de second plan en se disant si je suis bon dans
l'année dernière,
je pourrais peut-être redevenir pilote d'usine. Et il a réussi son pari. Alors, Vincent, c'était quand même assez chaud. Hein.
Alors vous trouvez ça normal que Ducati, le numéro 1, number 1, c'est Martin qui. Et ils ont choisi finalement Marc Marquez.
Oui.
Vous trouvez ça normal?
Oui, parce que, alors, à mon avis, je pense qu'il y a l'expérience qu'il a. Il y a 2027 qui arrive. Ils ont donc un des deux meilleurs pilotes de la compétition. Et Marquez a beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc, en fait, ça va les aider pour la moto 2027. Je pense que c'est ça. Alors que Martin n'a pas l'expérience de Marquez.
On rappelle qu'en 2027...
C'est un compromis, c'est un tout.
Oui. En 2027, hein, les 1000 cm3, c'est terminé. On revient à 850 cm3.
C'est pour ça que je parle de ça.
Il va y avoir des grands changements. Hein.
Ah oui, de toute façon, les motos de 2025, c'est la dernière évolution. 2026, il n'y a plus d'évolution possible. Hein. C'est interdit. Hein.
Voilà.
Il y a un truc sur lequel il faut revenir aussi, c'est quand même... 2024, c'était la première saison sans la victoire des motos japonaises. Depuis 1970.
Ouais.
C'est quand même impressionnant, quoi.
Pas de Yamaha et pas de Honda.
Pas Yamaha, pas non, et Suzuki qui s'est retiré, quoi.
Bon, alors vous pensez pas que. Ou vous pensez peut-être que, effectivement, Rossi, par l'intermédiaire de Pecco Bagnaia, va se venger, peut-être,
non,
de ce que lui a fait Marquez il y a 5-6 ans, là.
Je pense pas.
C'est à Austin, hein, je crois.
Non, non.
Non, je pense pas. C'est plus la page est passée depuis longtemps et je pense.
Vous croyez?
Ouais.
Ouais. Ouais, non, bah, moi je suis pas sûr.
Voilà. Et KTM.
Honnêtement, c'est pas ça l'important pour moi.
KTM est dans la tourmente.
Alors KTM, dans la tourmente.
Vraiment la tourmente.
Alors, qu'est-ce que vous pensez
financièrement, je ne sais pas si ça va vraiment influencer la course, mais financièrement, oui.
Financièrement, oui.
Alors, c'est Bram Binder et Pedro Acosta, les deux pilotes.
Oui. Ouais. Hein.
Oui. Bon, Acosta, il est quand même là. Hein. Dans les essais, il est quand même là.
Hein. Ah, il a toujours été là. Hein.
Mais là, les essais de Bioinam et les essais de machin, il était quand même là. Hein. Il n'y a pas. Donc, KTM est toujours là. Il ne faut pas. Ouais. Elle est un petit peu en retrait par rapport. Aprilia a fait un petit bond en avant. Yamaha aussi, mais on est encore loin. Et Honda, bon, on verra. Ouais. Ils investissent beaucoup. Il faut savoir que...
T'entends beaucoup mieux comme
Ducati,
ça.
Mais Ducati continue à investir à tel point que c'est les seuls fabricants qui ont un département complet réservé aux pneumatiques. En fait, ils ont été aidés par Volkswagen, c'est le groupe à qui appartient Ducati, pour avoir des essais sur les pneus. Parce que le pneu arrière, c'est le gros problème actuellement. Il est tellement adhérent qu'il pousse l'avant. Donc tous les pilotes s'en plaignent pas parce que ça tient vachement la route. Mais par contre, ils perdent l'avant à cause de ça. Et Ducati a fait plein d'essais dans le laboratoire à Volkswagen pour ça.
D'accord. Voilà, on passe à Aprilia avec le numéro 1. Martin est parti chez Aprilia. Alors, oui. D'abord, il y a un problème là. Il s'est blessé aux essais. Hein.
Oui, Martin a chuté aux essais à Sepang et là, il n'a pas participé à Birmingham. C'est important parce que le problème, c'est qu'il est sur une nouvelle moto, il faut qu'il s'habitue et là, il n'a pas pu le faire. Quoi.
Vous pensez qu'il peut se battre pour les premières places?
Je pense qu'il va les titiller, mais se battre pour...
Ce n'est pas être facile parce que la Brial n'est quand même pas au niveau de la Ducati quand même.
Elle n'est peut-être pas au niveau, mais c'est vraiment un combattant,
oui.
Martin.
Oui.
Par contre, la seule chose, l'année dernière, je pensais qu'il allait se blesser en cours d'année, et l'année dernière, pas du tout. Là, c'est vraiment, j'étais très étonné, parce que chaque année, il y avait une blessure. Pas à force, mais à chaque fois, il se blessait un peu.
Donc alors, Martin et deuxième pilote, c'est Bezzecchi.
Ouais.
C'est ça.
Alors, Bezzecchi, par contre, il s'habitue très vite
très bien, ouais.
à l'Aprilio. Parce que là, il est... Bezzecchi, je sais plus, j'ai vu ça... Bezzecchi a battu son record perso avec la Ducati. Hein. A priori, il est vraiment fort avec la Ducati.
Avec la Aprilia.
Non, mais franchement, c'est impressionnant la vitesse à laquelle il s'habitue la Aprilia.
Et puis, il y en a un petit nouveau aussi, avec Aguro.
Attends, on va passer...
Non, c'est parce qu'on est chez Aprilia.
Oui,
c'est pour ça qu'il dit ça.
En fait,
Aguro, il finit 9e sur les essais.
Aprilia.
Ouais, chez Aprilia. Donc, c'est impressionnant parce que c'est un rookie, quoi.
Ouais. Tout à fait.
Et on passe avec Yamaha. Ben, ça, on a notre... Notre Quateraro, hein, ouais. Qui est Fabio, qui est avec en deuxième pilote Alex Rins. Voilà.
Qui n'a rien fait l'année dernière à cause de sa blessure, ses blessures, parce qu'il y a eu plusieurs blessures. Donc il y a eu vraiment du mal à remettre. En plus, sur une Yamaha qui n'est pas au top, c'est sûr qu'il n'allait pas revenir au premier plan. Après, on verra bien.
Alors Quateraro, il avait prévenu, en fait, tout le monde s'est enflammé. À Sepang parce qu'il a quand même fini premier aux essais. C'est quand même, il était quand même. Mais il avait dit, attendez, Sepang, c'est un circuit qui va bien là.
Voilà.
On verra à Birmingham. Et effectivement, à Birmingham, c'était pas ça. Quoi.
Non.
Bon, on passe à Pramac qui a quitté Ducati et qui va rouler sur des Yamaha.
Ouais. Mais tant mieux, il y aura 4 motos Yamaha pour faire évoluer cette Yamaha, voilà. C'est important.
Et on passe chez OLCR avec Honda, toujours avec Johan Zarco. Hein.
Oui,
un pilote numéro 1 hein, finalement quand on regarde les performances qu'il a fait l'année dernière.
Oui.
Voilà. Et le second pilote.
Et par contre, le second pilote, c'est un.
Chantra.
dites-nous un petit peu, vous le connaissez, Chantra?
Oui.
C'est un pilote thaïlandais.
Oui, en moto 2, oui, il a déjà eu des résultats impressionnants, surtout sur la flotte.
Oui.
C'est vraiment un bon pilote, mais. Assez
alors c'est curieux qu'on prenne ce pilote parce qu'il y a quand même des pilotes en moto 2 qui sont un peu plus performants que
c'est
lui.
C'est du business. Il faut des pilotes asiatiques.
Moi je crois qu'Honda ils vend beaucoup de motos en Thaïlande.
Non, il faut des pilotes. Et c'est du business. Puis c'est un championnat du monde. Il faut que tous les pays soient là.
Voilà.
N'oublie pas que chez Honda il y a aussi Mir.
Oui.
Et à, comment s'appelle Marini aussi.
Et Marini, voilà. Tout à fait. Ouais.
Donc après il y a la VR46. Bah là c'est Ducati. Hein
Ouais. Avec Gianno Montonio et Franco Morbidelli. Ouais.
Voilà. DJ Antonio.
Ouais, on en a passé un peu là, mais voilà. C'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps.
Ouais. Voilà. Et Aldeguer aussi, nouveau.
Aldeguer, ouais, ouais, tout effectivement. À fait. Ouais. Est-ce que donc vous avez une idée un petit peu de ce qui pourrait se passer donc cette saison?
Alors, le changement chez VR46, c'est qu'ils vont avoir des motos d'usine cette année.
Oui.
Donc c'est important, ils risquent, oui, ils risquent de... Et je pense que Rossi a bien l'intention de contrer notre ami Marquez.
Ah bah oui, tu vois, c'est bien ce que je disais au début d'interview, mais... tu vois. Bah, voilà.
Oui, mais c'est une rivalité, fatalement, dans le même time.
Non, mais moi j'en suis sûr et certain, hein, voilà. Voilà, donc bah tiens, je donne la date du Grand Prix de France, comme ça c'est les auditeurs veulent déjà réserver leur week-end. C'est le 11 mai.
11 mai, oui.
Voilà, le 11 mai. Donc on l'a dit au départ de cette interview, c'est que bah, pour une fois, ça se passe pas au Qatar, hein, le premier Grand Prix, parce que ça fait des années que ça la première épreuve a lieu au Qatar.
De nuit en plus.
Et de nuit, oui, il fait de nuit, parce qu'il fait moins chaud. Il fait moins chaud. Et donc ça se passe en Thaïlande.
Thaïlande, ouais.
Il y aura peut-être plus de spectateurs qu'au Qatar.
Possible.
Il y a des spectateurs en Thaïlande. Hein. Ouais, voilà. Il y a des spectateurs. Si, ils sont très très férus de moto.
En,
ouais.
En Thaïlande.
En Thaïlande.
Oui, bien sûr. Oui, mais oui, bah, je suis par rapport au Qatar où il n'y a pas beaucoup de voilà. Et donc tiens, un changement aussi dans c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne qui depuis des années, ça se déroulait le premier week-end d'août. Hein, et là, ce sera juste après le Grand Prix de France, c'est-à-dire le 25 mai.
Oui.
Oui.
Et Jean-Pierre, les pièces sont pleines parce que 22 Grands Prix, 44 courses, c'est quand même assez éprouvant et fatigant.
Alors l'an dernier, il y a eu 20 Grands Prix au total parce qu'il y a eu 20 qui ont annulé. Cette année, on est revenu à 22. Effectivement, c'est pas fatigant que pour les pilotes, c'est fatigant pour tout le monde, pour le team.
Folie,
plus les transports. Donc ils ont, c'est pour ça que cette année ça démarre beaucoup plus tôt et ça finit beaucoup plus tard, parce qu'en fait ils ont volontairement essayé d'espacer les grands prix de 15 jours, sauf certains grands prix à l'étranger où c'est loin.
Et il reste peut-être, je regarde pas, j'ai le, il y a peut-être quelques grands prix où ce sera juste après une semaine après.
Oui, hein, oui, tout à fait, il y en a quelques-uns.
Mais en gros, il y a toujours 15 jours entre chaque Grand Prix.
Il y a 15 jours, le temps, le transport, moi, ça devient...
Oui, parce que là, les premiers Grands Prix, ça va se passer en Amérique du Sud, et puis voilà. Enfin, d'abord en Thaïlande, et puis après, ils partent en Amérique, à Austin, tout ça.
Après,
ils reviennent au Qatar. Il faudra le 27 avril pour que tous ces pilotes reviennent sur le continent européen.
Tout à fait, parce qu'ils reviennent en Europe.
À Jerez.
C'est-à-dire que pour se faire une idée de la saison 2025 en Grand Prix, il faut attendre l'Europe parce que jusque-là, on ne peut pas déterminer. Les pilotes à l'étranger, ils ne sont pas aussi compétitifs. Voilà.
Très bien, on passe à un morceau de musique et après, on va enchaîner sur la Moto 2 et Moto 3. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Hein. À tout de suite.
Close your eyes and breathe. Salvation of God's God.
Bon, JP, Jean-Pierre ou Balou, les auditeurs, ils disent, mais de quoi ils parlent?
Il y en a trop, il y en a trop.
Bah, c'est, Balou, c'est ton surnom de motard. Hein, on a tous des surnoms dans la moto, voilà. Et toi, c'est Balou.
Oui, voilà.
Et avant, c'était gros Balou, c'était Balou.
Dans
gros,
le temps,
mais t'as maigri, là.
J'ai maigri. Ouais.
Donc, tu aurais devenu Balou.
Voilà.
Il y a plus gros. Voilà, très bien. Ouais. Bon, allez, on parle moto 2.
Alors, on va parler moto 2, moto 3 d'abord. Parce qu'il faut...
C'est comme tu veux.
Cette année, il y a des changements au niveau règlement. Les moto 2, moto 3 ont un nouvel. Pour avoir une cohérence par rapport au Grand Prix, les essais, les deux premiers essais ne vont pas compter. Et c'est le troisième essai du vendredi qui va compter pour le classement en Q2. C'est important parce qu'en fait, ils peuvent régler leur machine.
Vendredi, il y avait combien d'essais?
Alors, celle du vendredi va compter pour le classement en Q2. D'accord, oui. Tandis que les deux premiers essais. Ça ne comptera pas.
Le samedi,
voilà.
On peut expliquer le système de Q2, ouais. les 10 premiers, c'est ça, les 10 premiers.
Oui,
Q1, Q2. Et après, il y a un repêchage des.
Q1, Q2, tout
oui.
à fait.
Voilà, c'est ouais, ça.
Ouais. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, en fait, le troisième essai du vendredi va servir au Q1, Q2. Mais forcément au Q2, parce que c'est ça l'important. Ouais. Voilà. Ça, c'est pour eux. De manière générale,
l'ensemble
il y aura une cohérence
moto 2, moto
par
3.
Rapport au Moto Grand Prix. Parce que l'année dernière, on s'y perdait un petit peu entre les essais et puis les. Alors, on commence par les moto 2 et moto 3.
Comme tu veux.
Alors, moto 2.
Alors, moto 3, il y a plein de petits nouveaux. Hein.
Ah oui, il y a beaucoup.
Oui,
de...
non,
ben, on va peut-être d'abord au moto 2. J'ai
moto
vu que tu avais
tout
sur moto 2. Là, voilà.
Alors, moto 2, il y a 6 rookies cette année. Il y en a 9 avec un an d'expérience.
Ouais.
Donc, c'est comme quoi ça va vite. Et il y a 14 pays. Alors, moto 2, il y a une grande majorité, malheureusement. Enfin, malheureusement. Il y a 14 Espagnols.
Bien sûr, parce qu'ils ont un championnat qui a...
Il y a 2 Italiens, 2 Néerlandais, 2 Japonais, 1 Belge, 1 Brésilien, 1 Tchécoslovaque, 1 Anglais. Là, tu vois, il y a des Anglais.
Ah bah, il y a un Anglais,
Sud-Africain,
là,
ouais. Un Américain, un Australien, un Colombien, un Turc et un Indien.
Ah, bah, c'est quand même bien représenté, la planète.
Là, il y a sur ouais, le monde. Sauf que la moitié des pilotes sont espagnols. Donc,
ouais.
Ça
commence à bien faire.
Oui, c'est clair. Non, mais je suis d'accord. Oui.
Attends, le problème pour eux, c'est après trouver notre place ailleurs. Ouais. Pour les Espagnols. Le problème, quand c'est concentré comme ça, il faut leur trouver quelque chose. Donc, dans leur pays même, ils ont du mal à trouver après.
Bah, le problème, c'est que, enfin, c'est même pas un problème. La plupart des pilotes, qu'ils soient néerlandais, américains, anglais ou autres,
ils font
championnat espagnol. Parce que c'est le plus relevé.
Ouais.
Voilà. Donc, en gros, cette année, il y a quand même pas mal de pilotes qui sont montés, qui sont montés. Il y a 3 pilotes qui sont montés en Moto Grand Prix.
Ouais, donc moi, le numéro 2 par contre est resté.
Numéro 2 est resté.
Canet.
Alors, c'est un vieux Canet.
Canet, c'est un vieux.
Ça fait longtemps qu'il est en Moto 2.
Il a couru avec Quartararo au début.
Ah oui.
Mais Canet, il a. Pour moi, je le compare un petit peu à Pedrosa. En fait, il y a toujours un pilote qui est supérieur à lui. Il y a eu Acosta, il y a eu Augusto Fernandez.
Il est facilement reconnaissable à la télé parce qu'il est tatoué du haut jusqu'en bas.
Il a
du haut en bas ou du bas en haut. Hein. Il a un cache-nez tatoué.
Oui, c'est ça. Je suis en train de chercher Whisk. Parce qu'il va être secondé par un pilote. Je suis en train de chercher.
Dépêche-toi parce que tu sais, il nous reste 3 minutes.
Bon.
3 minutes pour parler Moto 3, ça va pas
alors,
sera pas facile.
Alors, il y a quand même des pilotes Moto 3 qui montent. Il y a Ortola qui va monter, qui va être juste avec Garcia, qui était quand même bien placé en début d'année l'année dernière pour le championnat du monde. Ensuite, il y a Munoz et Mazia qui sont des pilotes qui étaient déjà là l'an dernier, mais qui ont un an d'expérience. Il faudra voir. Il y a Moreira, pareil, qui était déjà là depuis un an. Et il y a un petit nouveau qui surprend tout le monde. C'est celui qui a gagné le championnat des motos des SSP 300
et des
super sports et qui, à la place de passer en superbike,
passe directement
en URTAS.
Ouais.
Et URTAS, c'est un saignant.
Ouais.
C'est un saignant. On verra parce
bien.
Que c'est deux trucs différents. Hein. Ensuite, il y a Holgado Alonso. Je pense que ces deux-là, on les reverra parce que.
Oui, je pense aussi.
Alonso, il a survolé le Moto 3 comme jamais.
Atomisé, tu veux dire.
Atomisé, c'est le
parce que arriver à 15 points d'avance sur tout le monde,
tu dis qu'il y a
quand même quelque chose.
Oui, de toute façon. Et puis après, il y a les petits nouveaux, il y a Sasaki, on verra bien ce qu'il en aura. Il y a du mal, Sasaki.
L'année dernière, c'est.
Voilà. Donc voilà un petit peu une vue d'ensemble des Moto 2.
On enchaîne sur le Moto 3 vite fait, hein, parce que là, il manque un peu de temps.
Moto 3, il y a 7 rookies.
circuit.
Il y a 9 Italiens, 7 Espagnols, 2 Anglais, 2 Australiens, 2 Japonais, 1 Thaïlandais, 1 Argentin.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de Français.
Non, il n'y a pas de Français.
Il n'y a pas de relève.
Donc ça veut dire qu'après Zarco et Contaro, c'est fini.
Il n'y en aura plus.
Non. Il n'y en aura plus.
Un Néo-Zélandais, un Sud-Africain et un Suisse. Voilà ce qu'il y a dans. Alors là, c'est pareil. Dans les gros arrivants, il y a Uriart qui arrive du championnat moto junior qui a survolé aussi, il est cinquième, mais il y a eu des résultats, il était blessé donc c'était compliqué. Il y a Carpa qui est premier en junior qui arrive aussi, donc c'est des gens qui arrivent comme ceux de l'an dernier. Hein. Et ensuite Pini. Qui était deuxième en junior aussi, non, junior GP. C'est important, c'est des nouveaux qui arrivent, qui risquent de faire parler d'eux. Il y en a un pour moi qui l'an dernier aurait pu être meilleur, mais c'était assez surprenant, c'est Piqueras. Il a quand même bien étonné d'être nouveau dans la catégorie. Donc cette année, je pense qu'il faudra compter avec lui en Moto 3.
Ouais. Avec un nombre de
voilà. Oui, tout à fait. Après, il y a les habitués. Il y a Rulston qui est pas mal non plus hein, dans l'équipe Tech 3. Dans l'équipe peut-être trop, voilà.
Il faut rappeler que ces pilotes, ils ont à peine 17 ans. Je crois que c'est l'âge limite, ouais. C'est ça, c'est 17
non,
ans.
Non, c'est 18.
18 ans. Ouais. Ouais.
Alors, il y en a qui ont. L'an dernier, on avait encore des pilotes de 17 ans parce que quand le règlement a été pondu, il y en a qui ont commencé à 15 ans et quelques, presque 16 ans. Et puis bon, donc voilà, effectivement, cette année, ils arrivent à 18 ans, mais. L'année prochaine,
terminé.
Il y aura que 18
voilà. Très bien. Voilà. Bon, écoute, voilà. Nous on a démarré.
Une ensemble rapide.
On a démarré, on a franchi la ligne d'arrivée là. Voilà. Tu vois, c'est terminé. La course est terminée. Je vous donne rendez-vous le 16 novembre. C'est loin. Hein
16 novembre.
Oui.
Ce sera le dernier Grand Prix à Valence, comme d'hab. Par contre, là, c'est comme d'habitude sur le circuit de Ricardo Tormo, voilà, à Valence. Voilà. Vous serez là.
Alors peut-être moi par téléphone. Peut-être.
Voilà, très bien. Bon voilà, on termine l'émission. Merci Patricia pour toutes ces infos féminines.
Oui, mais un grand merci à vous, messieurs, pour toutes ces informations.
Très intéressant, Patricia.
Voilà,
très intéressant.
Voilà, on vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche et forcément, on se retrouve dimanche prochain à 11h sur les ondes de Campus 106,6 ou www.campuslille.com. Et on remercie qui là?
Laurent.
Oui. Oh, bon, ben voilà, allez, salut, merci Laurent. Salut.